couleur des mots. Ce matin, bonjour. Bonjour à Christian qui m'accompagne. On va un petit peu dire la phrase du jour. Alors elle vous dit ceci. Pour transformer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. Et réciproquement, se transformer soi-même, c'est transformer le monde. L'auteur, c'est Jiddu Krishnamurti. Ce matin, je vous ai amené des petits textes, des petites choses mignonnes qui vont vous faire peut-être des souvenirs, peut-être réfléchir à des choses. Enfin, c'est un livre qui a été écrit par François Eva. Ça s'appelle « Voyage poétique au travers du temps ». Et c'est vraiment très poétique, vous allez voir. Le premier, ça s'appelle « L'accordéoniste de Périgueux ». Alors vous dire, parce que l'auteur est un périgourdin habitant Périgueux, voilà, c'est tout ce qu'il a pu écrire sur son département, sur sa région, sur sa ville. Alors l'accordéoniste de Périgueux nous dit « Il s'est appuyé contre le mur gris » de cette ruelle, non loin de la place du marché de la Clôtre. Il a délicatement posé une assiette ébréchée, boueuse, qui lui servait de sébile, et a saisi son accordéon. Il pouvait bien avoir allé dans les 20 ans, la jeunesse, l'audace et la fougue, vous savez, de ces musiciens qui, la semaine, jouent pour le plaisir de faire plaisir aux gens qui passent. Des airs de toute génération, de tous les âges. Il faisait beau. Rien ne presse quand je me balade dans les vieilles rues de Périgueux, ma ville. Avisant un salon de thé, je m'installais sur la terrasse et commandais un café et une délicate tarte à la crème. Mais mon attention était captivée par autre chose. L'accordéoniste jouait un air d'autrefois, une rengaine. Ah, il m'en souvient maintenant, oui, la complainte de la butte. Ah, chanson de ma jeunesse, si belle, si émouvante à la fois. Les notes montaient, pures, grisantes vers l'azur, par-delà les toitures, et les passants charmaient, s'arrêtait le petit sourire aux lèvres et le cœur en bandoulière, vous savez, en fredonnant la rengaine. Je regardais ce spectacle, heureux d'être là, l'âme en joie. Alors je me levais, quittais mon siège et courus vers l'artiste, impassible dans sa musique. Moi, je mis un billet dans sa sébile où s'entassaient les pièces. Et puis, murmurait « Merci pour ce bonheur. Merci, merci, merci le poète. »
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers et je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Vous avez reconnu Cora Walker dans La Complainte de la Butte. Là, notre invitée poétique, c'est la Violette. Il y en a dans le jardin, parce qu'il fait bon, alors elle est un peu en avance. Mais bon, notre poème va nous dire que ce matin, quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir au milieu d'une touffe verte une minuscule et pimpante violette. Elle me regardait, curieuse sans doute de se voir observée comme un objet rare. Décembre est là et il est fini le temps des violettes. La bise souffle et la glace, le sol. Et puis, vous savez, le sol est couvert de feuilles mortes et pourtant elle brille, éclair de lune dans la grisaille si fragile et si forte, si épanouie et si fière de vivre. Elle a choisi minutieusement son berceau pour naître. Derrière un coin de mur caché sous l'arbre au baie rouge qui, pour mieux la protéger, penche sur elle ses branches sous lesquelles elle se pelotonne quand tombe la pluie ou la neige. Ainsi, certains humains, comme la petite Violette, malgré la tourmente de leur existence ballottée dans les vents sournois et contraires qui s'acharnent sur eux, tentent avec rage et méchanceté de les détruire. Luttent, ploient, mais refusant la fatalité, ploient, oui, oui, mais ne rompent pas. Enfermés dans leur fragile coque de noix, comme le petit éclair si frêle est derrière son mur, sous son arbuste, il trempe aussi, il lutte aussi. Demain, ils en sont certains, vous savez. Ils s'éloigneront, ah, le malheur partira. Ah, malheur, sombre, misère, après l'hiver pointe toujours le printemps, avec sa douceur paisible. C'est le temps des violettes. Des fleurs, des journées pleines de douceur. C'est le temps de la renaissance, celui de la fin des angoisses, de la peur. C'est le temps de l'amour, c'est le retour du bonheur dans tous les cœurs. C'est le temps de l'espoir, des projets qui vous tiennent à cœur.
À la saison des violettes, Susan venait d'avoir 16 ans, et ses deux grands yeux innocents ressemblaient aux douces fleurettes. Elle dit à son amoureux qui partait pour les mers lointaines, pour les violettes prochaines, nous nous marierons tous les deux. Mais plusieurs printemps se passèrent sans que son fiancé revînt. Et plusieurs fois dans les jardins, les violettes se fanèrent. Les violettes sont des fleurs qui, dans leur fragile corolle, abritent bien souvent des cœurs d'amants qui se désolent. Elles ont quelquefois des pleurs. On nous dit que c'est la rosée, mais ce sont des âmes brisées qui pleurent tout bas dans les fleurs. À la saison des violettes, Pierre n'était pas de retour, et Suzette, folle d'amour, mourut de chagrin, la pauvrette. Elle repose maintenant là-bas, tout au bout du village, où viennent en pèlerinage les amoureux. Et sur la tombe de Suzette, quand revient la belle saison, pousse une ardente floraison d'humbles et douces violettes. Les violettes sont les fleurs qui, dans leur fragile corolle, abrite bien souvent des cœurs d'amants qui se désolent. Elles ont quelquefois des pleurs. On nous dit que c'est la rosée, mais ce sont des âmes brisées qui pleure tout bas dans les fleurs.
C'était les violettes interprétées par Lina Margie. Ah, notre jeunesse encore. Hein. Allez, on va continuer avec un autre petit poème qui s'appelle, toujours écrit par François Eva, bien sûr, puisque c'est son livre, La petite fille au grand cœur. C'était encore une enfant, mais son cœur avait bondi en le voyant jeune professeur. Elle avait eu de cesse de partout le suivre, de tout faire pour qu'un regard il lui accorde. Elle travaillait de son mieux, sage et studieuse, avec toute sa force et sa volonté de lui plaire. Elle n'y avait point de vice, vous savez, à sa façon d'être. Elle souhaitait sans doute trouver quelqu'un qui l'aime. Le jeune homme, lui, ne voyait en elle qu'une élève, parmi toutes les autres élèves, un peu possessive, sans doute, mais oh, tellement gentille et agréable à vivre. Elle resta dans sa classe quelques années et partit pour le collège. Chaque samedi, elle venait lui parler de sa semaine, de ses camarades, des bons et des mauvais moments, de ses rêves d'adolescente babillarde. Et peu à peu, il s'habitua à sa présence, rayonnant de joie quand des pas alerte, les siens et ceux de ses camarades faisaient résonner dans le couloir les planches disjointes. Les années passèrent, le temps fit son œuvre. Le jeune professeur vit avec surprise ses premières rides. ses premiers cheveux blancs, rendre ses gammes grisonnantes. La petite fille avait disparu. Elle devait être mariée et mère, sans doute. Maintenant, l'enseignant était vieux. Dans sa tête, des visages, des dizaines d'enfants qu'il avait tant aimés, qu'il avait tant aidés. Chaque jour se bousculait et égayait le vieil homme, seul avec son chien dans sa grande maison vide. Souvent, il repensait à cette petite fille aux yeux si clairs, au regard si pur, qui lui avait appris, sans le savoir, à aimer les enfants. Un soir d'hiver, un bruit de moteur devant la clôture, le chien qui sort en aboyant. Devant le portail, une jeune femme brune dont il reconnut aussitôt le regard d'enfant. Le destin avait permis qu'il se retrouve, qu'il se rende compte qu'il ne s'était jamais oublié. Elle lui apportait brusquement ce que tout enseignant rêve un jour de connaître, le sentiment que ses enfants l'ont aimé. Et lorsqu'elle remonta dans sa voiture, sur sa joue de vieillard, une larme a coulé. Reviendra-t-elle un jour, avec son sourire resté enfantin, lui rendre une autre visite? Rien n'est moins sûr. Mais le jour où elle vint, ce jour de bonheur intense, restera à jamais dans son cœur un tatouage indélébile. C'est si bon de sentir qu'au cours de sa vie, on a su se faire aimer. Bonne chance, petite fille.
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit, c'était le bel âge. Monsieur le maître d'école, moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou, et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction, oh quel programme. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour. C'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage. Monsieur le maître d'école, y a pas à dire, ces moments-là, on y repense bien des fois, on se les rappelle, et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné de ces nouvelles. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre. Je prends des airs de grand seigneur pour épater les électeurs.
que j'administre. Mais un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit, bonjour toi, ça me fait drôle. Je suis redevenu le petit gars. J'ai murmuré comme autrefois. Bonjour, monsieur le maître d'école.
Merci, monsieur Bourvil. Alors nous, on va terminer avec quelque chose. Je suis sûre que vous vivez vous aussi au quotidien et que vous dites quelquefois « Je t'aime, mon chien ». Il est assis près de moi et me regarde. Dans ses yeux brille avec ardeur et force tout l'amour que le cœur d'un chien me donne. Vous êtes joyeux, alors ? Alors lui aussi, de bonheur aboie. Il vous provoque comme bout de bois, une balle. Allez, viens, semble-t-il dire, c'est le moment où s'éclate. Alors, sans se poser de questions, au jeu, on se pique. Ah, moment délicieux, heureux bonheur de se sentir heureux. Mais si le temps se gâte, si la tristesse arrive, alors sa tête, doucement contre ma jambe, il se pose, lèche mes phalanges, m'agrippe avec sa patte, retient ma jambe. Ses yeux sont si bons, sa peine si sincère. Je le caresse longuement avec tendresse. Je le crois maintenant, sans lui, j'aurais déjà quitté ce monde. Il a été... Il sera toujours mon ami le plus cher, un membre de la famille. Nous sommes inséparables et nous ne nous séparerons jamais. On a alors de belles années ensemble. Oui, oui, tu le sais. Je t'aime, mon chien.
Ok, monsieur Sévi, pour tous les chats du monde.
Ce sont les plus fidèles, avec pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chats sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu comme des merveilles, on ne peut pas les oublier. C'est le moment de chanter. Ce sont les plus fidèles, avec pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chats sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu. Ce sont les plus fidèles.